France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h21. Louis Vuitton a ouvert le bal hier soir. Dior, Kenzo, Hermès, Jacquemus, Lanvin vont suivre. La semaine de la mode homme se tient en ce moment à Paris avant les défilés haute couture la semaine prochaine et la Fashion Week femme début mars. C'est la vitrine de cette industrie clé pour la France. Industrie qui va peut-être souffrir de la politique protectionniste de Donald Trump. Bonjour Pascal Morand.
Bonjour.
Vous êtes économiste, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Aujourd'hui, la France est toujours numéro un mondial de la mode et de la mode luxueuse.
Oui, la France est numéro un mondial, c'est absolument dit, reconnu de par le monde. Et les Fashion Week, puisqu'il y a la Fashion Week homme, comme vous l'avez dit, la Fashion Week également, donc mode masculine, la Fashion Week de mode féminine, et puis la semaine de haute couture, qui est une particularité française, occupe, assure le leadership mondial, comme les marques françaises.
Quel est le poids économique de la filière?
Alors, le poids économique de la filière, si on prend le cas de la France, on est à un chiffre d'affaires de plus de 250 milliards d'euros et en termes d'emploi, de l'ordre de 550 000 en emplois directs. Et si on inclut les emplois indirects et les emplois induits, on est de l'ordre d'un million. Alors ça recouvre des segments différents, des marchés différents qui vont des marchés de grande consommation jusqu'à la mode qui est assurée et créée par les marques de luxe et
donc
les créateurs de mode.
Plus d'un million de personnes, tout compris.
Oui.
Mais la tendance, d'après ce que j'ai vu, elle n'est pas très bonne. Hein, le marché mondial du luxe, dans sa globalité, là, pas que la mode du luxe, recule. Baisse du chiffre d'affaires, baisse des ventes aussi. Alors, toujours des bénéfices, mais c'est en baisse. Est-ce que la mode fait exception ou est-ce que ça baisse aussi?
Globalement, d'abord la mode, il faut savoir que c'est un laboratoire qui annonce toujours les tendances de l'économie. Donc, il y a une forme de rééquilibrage, puisqu'il y a eu un engouement donc, sur la scène internationale, comme des années, avec des années extrêmement brillantes, donc post-Covid. Et il y a donc, comme je le disais à l'instant, cette forme de rééquilibrage, et puis aussi des marchés, des économies qui évoluent différemment. Si on prend le cas de la Chine en particulier, le ralentissement de la croissance et le taux d'épargne très important en Chine a des conséquences évidentes, puisqu'aujourd'hui d'ailleurs le gouvernement chinois va jusqu'à relancer de la consommation, ce qu'il avait donc jamais fait. Jusqu'alors.
Donc la Chine aujourd'hui nous achète moins de robes Chanel et de sacs à main Vuitton, c'est ça?
Il y a eu un rééquilibrage, mais ça représente toujours un marché important. Donc, vous savez, tout ça, ce sont des marchés mouvants. Par contre, il y a une croissance aux États-Unis. Quant au marché européen, il est relativement en croissance plus faible. Ceci étant dit, les chiffres ont été honorables, en France en particulier, et je dirais même tout secteur confondu, entre 2023 et 2024. On voit bien qu'il n'y a pas eu de dégradation. Ceci dit, il y a un certain nombre de facteurs de transition, la révolution numérique, toute la dimension écologique.
On va y venir.
Un certain nombre de mutations également sociétales. Donc tout ça procède de cette mutation globale.
Mais dans l'ordre, le numéro un, c'est qui? Quel est le pays qui nous en achète le plus de la mode de luxe?
Écoutez, c'est équilibré. Si on parle des marques de création, donc de luxe et de création en général, c'est équilibré. Et on va dire qu'il y a un tiers Asie, et avec la Chine, mais le Japon également. Le Japon et la Corée représentent des marchés importants, puis l'Europe et les États-Unis.
Et les États-Unis, justement, avec Donald Trump qui envisage très fortement de taxer davantage les produits européens importés sur le sol américain, est-ce que ça vous inquiète?
On suit ça, bien sûr, attentivement. Mais enfin, les augmentations de droits de douane évoquées sont de l'ordre de 10%, donc ce sont des produits de mode, de luxe qui s'exportent sont des produits qui ont, pour reprendre les termes économiques, une compétitivité hors prix élevée. Et par ailleurs, vous savez, il faut...
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, quand on vend une robe 10 000 dollars, si elle coûte 10 500 parce que les taxes vont augmenter, ça va pas changer grand chose pour les riches américains?
C'est exactement ça.
Ils l'achèteront quand même.
C'est exactement ça. C'est pas pour autant que le facteur prix est pas important, mais enfin, il est plus limité qu'en d'autres, dans d'autres secteurs. Et par ailleurs, vous savez, quand on regarde les choses plus précisément, la situation, elle est connue pour ce qui concerne, en tout cas, dans ce qui est annoncé, pour voir ce qui va être négocié, donc pour le Canada et pour le Mexique. Et puis, il y a ces droits de douane envisagés très importants sur la Chine, de l'ordre de 60%. Donc, c'est plus faible en Europe. Il y aura probablement également une attention qui va être portée par l'administration Trump, pays par pays, pas nécessairement en voyant l'Europe comme un tout. Et de ce point de vue-là, la France n'est pas en situation d'excédent commercial par rapport aux États-Unis. Il y a plus de sujets du côté de l'Allemagne, et c'est pour ça qu'il y a des inquiétudes importantes de la part de l'automobile allemande.
Pascal Morand, je rappelle que vous êtes président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Il y a une autre Fashion Week, hein, il n'y a pas que celle de Paris, il y a la semaine de la mode de Londres, qui va fixer de nouvelles normes en matière de développement durable à partir de l'an prochain. Les marques devront respecter un cahier des charges écologique pour pouvoir participer à cette semaine de la mode. Par exemple, il ne faudra pas de pièces en fourrure, ni en peau, ni en plume, ne pas pratiquer la destruction des invendus et ne proposer aucun plastique à usage unique. Est-ce que Paris va suivre ?
Paris n'a pas besoin de suivre parce que Paris applique largement l'essentiel de ces critères. C'est une dimension, évidemment la dimension écologique est de plus en plus importante, mais Paris a fait une chose en plus, c'est la mise en place d'outils d'éco-conception, donc pour les défilés, pour les shows, pour les défilés et les présentations, notamment du calendrier officiel, avec des solutions, donc un web service concrètement qui comporte un grand nombre de questions, un grand nombre de questions donc qui sont posées et qui permettent aux marques d'aller dans le sens de l'éco-conception. Et puis vous savez, les critères que vous évoquez sont des critères assez généraux. Il y a un ensemble de réglementations qui sont mises en place aujourd'hui, notamment à l'échelle européenne. On suit ça extrêmement attentivement. Et pour redire un mot sur ce qui est entrepris par la Fashion Week de Londres ou d'ailleurs par la Fashion Week de Copenhague, ça figure largement dans la réglementation française. Après, il y a des questions très techniques.
Mais pour être dans le concret, est-ce qu'il y a des maisons de haute couture qui utilisent, je sais pas, des tissus recyclés, des boutons qui ont déjà servi, des boucles de ceinture pareilles récupérées? Est-ce que ça se fait ou absolument pas, par exemple?
Ah, ça se fait absolument. Et c'est ce qu'on appelle l'upcycling. Après, il y a des sujets, encore une fois, techniques et politiques sur les enjeux de ce qui est supposé conduire à l'interdiction de la, non seulement du recyclage, mais de la destruction des invendus, mais qui concerne tous les secteurs de l'économie, qui vont donner lieu à un main débat dans les temps qui viennent au niveau européen.
Merci Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.